bienvenue pour notre deuxième émission de radio depuis l'école de Saint-Firmin-des-Bois. Je vous présente Lilian.
Et je vous présente Stella.
Au sommaire, aujourd'hui, une interview sur le métier de paléontologue par Ewen.
Nous avons été visiter pour vous le studio de C2L Radio à Chalette.
Un article sur la ville de Londres.
Une présentation de Napoléon. Un rap fait par les élèves de la classe.
Et une interview d'un gendarme. On y va?
Oui.
C'est parti!
Et pour commencer, nous allons accueillir tout de suite Ewen qui va nous présenter le métier du paléontologue.
Bienvenue Ewen.
Bonjour.
Comment s'appelle le paléontologue que tu as interviewé?
Il s'appelle Thomas Gillot.
Pourquoi as-tu voulu faire cette interview?
Parce que c'est un ami de ma mère et je m'intéresse à la paléontologie.
Eh bien, nous t'écoutons.
Bonjour, je vais vous présenter le métier de paléontologue. En quoi consiste votre métier plus précisément?
Alors mon métier à moi du coup, c'est notamment d'aller chercher des fossiles, des minéraux un peu partout en France et dans les pays voisins. Et je fais des conférences aussi, j'expose ces fossiles notamment dans divers endroits de France.
Combien de fossiles trouvez-vous par jour?
Par jour, ça dépend où je vais, etc., ce que je fais, mais quand on va dans un site qui donne beaucoup de fossiles, on peut en trouver facilement une centaine par jour.
Et combien de sortes de fossiles trouvez-vous par jour?
Et ben alors là, c'est pareil, ça va dépendre un peu du site dans lequel on se trouve. Il y a des sites où on trouve qu'un ou deux types de fossiles dans la journée, et d'autres sites où ça peut être une bonne dizaine de types différents. Hein. Ça peut être des céphalopodes, des ammonites, si vous connaissez ça. Ça peut être d'autres choses, des trilobites, des coraux, etc. On peut trouver pas mal de choses.
Dans quel pays allez-vous pour trouver des fossiles?
Alors, pour trouver des fossiles, je vais en chercher en France, en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays, en fait, autour de la France aussi. Et puis, dans toutes les régions de France, on peut en trouver.
Quand vous trouvez un fossile, comment faites-vous pour les extraire?
Alors là, ça va dépendre vraiment du type de matériau dans lequel on trouve le fossile. Si c'est dans du sable, ça va assez vite. Il suffit juste de gratter le sable et on trouve le fossile. Sinon, si c'est dans du calcaire, par exemple, des choses un peu plus dures, il faut utiliser un marteau, un burin, voire des choses un peu plus gros, des masses, etc. pour extraire le fossile.
Combien de temps cela prend-il?
Toujours pareil, ça dépend un peu du type de sédiments. On peut ramasser quasiment instantanément, comme on peut mettre 2 heures à sortir des gros fossiles bien bloqués dans des sédiments très durs.
Comment sortez-vous les fossiles dans de la pierre?
Alors, dans de la pierre, comme je t'ai dit, il faut utiliser des gros outils, des marteaux, des masses, des baramines. Faut pas hésiter à bien creuser avec des gros outils et faire beaucoup d'efforts.
Avec quel outil travaillez-vous généralement?
Celui qu'on sert le plus, c'est surtout le marteau. On s'en sert vraiment partout.
Combien de temps mettez-vous pour trouver un fossile?
Pour trouver un fossile, on peut en trouver par hasard, mais sinon, ça nécessite une prospection avant de regarder un petit peu des documents, des archives, pas mal de choses. Donc, on met quand même un petit moment avant de trouver des sites où on peut trouver des fossiles. Et puis après, quand on va sur place, ça dépend de la marche d'approche pour arriver au site.
Combien de temps faut-il pour mettre un fossile au musée?
Alors, pour le musée, il faut d'abord être en contact avec eux. Il faut que le fossile en vale la peine, il faut que ça soit un très beau fossile, etc. Et puis si c'est quelque chose aussi qu'ils n'ont pas dans leur collection, on peut leur proposer, faire un don au musée de nos fossiles notamment.
Au revoir.
Eh bien merci, au revoir.
Merci Ewen pour cette interview.
Blague.
Un père parle à son fils. Pourquoi tu traites ton frère de débile? Va lui dire que tu es désolé. L'enfant se retourne et dit: Nestor, je suis désolé que tu sois débile.
Je laisse la place à Anaë, Damien et Colin pour vous présenter C2L Radio.
Nous avons visité les locaux de C2L Radio le jeudi 2 février. Nous avons aussi parlé dans des micros et assisté au journal matinal.
C2L Radio est une radio locale.
C'est une radio associative avec 7 employés et plus de 30 bénévoles.
Cette radio existe depuis 1982.
Elle diffuse surtout la musique pop-rock, mais pas seulement.
Les studios sont dans une maison à Chalette-sur-Loire.
À l'entrée, nous avons vu une exposition de guitare électrique et un ancien poste de radio. Dans les 3 studios et dans la régie, les murs sont recouverts de mousse pour éviter les raisonnements.
Nous avons rencontré 4 employés et un animateur bénévole.
D'ailleurs, Colline a interviewé la directrice de la radio.
Nous l'écoutons maintenant.
Bonjour.
En quoi consiste votre métier?
Le métier de journaliste consiste à recueillir des informations. Donc pour ça, je vais sur le terrain, j'interviewe des gens, des personnes, je pose des questions. Donc c'est recueillir l'information et après, à la présenter à un maximum de personnes, l'expliquer aux gens de façon pédagogique, voilà, l'expliquer simplement, avec des mots simples. Surtout en radio, il faut faire des phrases plutôt courtes, hein, c'est un métier oral. Donc pour être bien compris en radio, des phrases plutôt courtes, un vocabulaire simple, voilà, bien expliquer aux gens l'actualité, l'information. Donc voilà, faire des reportages, du montage audio, voilà, ça consiste à tout ça, mon métier. Plus après, bon là c'est le métier de journaliste, mais comme je suis aussi directrice, après il y a d'autres, je fais d'autres choses, des partenariats, recherche de subventions, on réfléchit sur la programmation, on forme des bénévoles, donc voilà, ça consiste en plein de choses.
Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
J'ai choisi ce travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, parce que j'aimais bien à l'écriture, c'est un métier d'écriture, j'aimais bien le contact humain, donc c'est un métier où on rencontre beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier.
Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
On est aux 35 heures, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on fait plus d'heures parce que je fais des reportages, c'est-à-dire une quarantaine d'heures par semaine. Ça dépend des semaines, en fait. Ça peut être beaucoup plus, comme moins.
Quelle étude faut-il faire pour être journaliste ?
Bien, faut le bac, baccalauréat. Après, moi, personnellement, en tout cas, j'ai fait un master littéraire. Et après, j'ai pu rentrer en deuxième année dans une école de journalisme. Il y a plein d'écoles de journalisme, notamment à Tours, Paris, Lille, et je crois qu'il y en a à Bordeaux aussi.
Combien êtes-vous d'employés dans la radio ?
Alors d'employés, il y a en tout 7 salariés, sachant qu'il y a des temps partiels. Donc il y a 3 journalistes, dont un journaliste qui travaille que le week-end, 2 techniciens animateurs, une secrétaire. Et il y a après une trentaine de bénévoles qui viennent, qui animent aussi donc, l'antenne.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Colline pour ton interview.
Blague.
Il y a une pomme de terre en haut d'un immeuble et un petit pois en bas de l'immeuble. La pomme de terre tombe et s'écrase à côté du petit pois. Et le petit pois dit « Oh purée !»
Bienvenue maintenant à Maëlys et Célia qui vont nous présenter la ville de Londres.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?
Parce que nous aimons Londres et c'est une belle ville.
Nous vous écoutons tout de suite.
Londres.
Nous allons vous présenter Londres.
Londres se prononce en anglais London.
Londres se situe dans le sud du Royaume-Uni.
Longtemps capitale de l'Empire britannique,
sa population est de 8 416 535 habitants.
Et sa superficie est de 1572 km².
Les gens de Londres s'appellent les Londoniens ou pour les filles les Londoniennes.
Londres est traversée par un fleuve qui s'appelle la Tamise. Il fait 346 km.
La Tamise, en anglais, se dit Thames.
C'est le plus long fleuve dont le cours se trouve entièrement en Angleterre.
Voici 5 monuments célèbres de Londres.
Big Ben. Le Big Ben est situé au bord de la Tamise. C'est une grande tour avec 14 loges autour.
Le Tower Bridge. C'est un pont au-dessus de la Tamise avec 2 tours et qui peut s'ouvrir pour laisser passer les bateaux.
La cathédrale de Saint Paul's. Saint Paul's est située au cœur de la ville.
Buckingham Palace. C'est le palais de la reine Elizabeth.
London Eye. C'est une grande roue vers la Tamise. À Londres, on peut trouver des cars à 2 étages et des cabines téléphoniques rouges. Voici quelques événements majeurs qui ont marqué Londres. En 1863, y est construit le premier métro au monde.
Londres souffre beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, notamment des bombardements allemands.
En 2005, la ville subit des attentats kamikazes islamistes.
En 2012, Londres accueille les Jeux Olympiques.
Merci les filles pour cette présentation intéressante. À bientôt.
Vous savez pourquoi les vaches se taisent tout le temps ?
Bah parce que devant, il y a un panneau écrit « La ferme ».
Et voici maintenant une présentation de Napoléon par Comé Conan.
On va vous parler de Napoléon Ier, le premier empereur des Français. Napoléon Ier est né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Il est le premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars 1815 au 22 juin 1815. Napoléon Bonaparte est un militaire général dans les armées françaises et il a fait construire l'Arc de Triomphe de l'Étoile et l'Arc de Triomphe du Carrousel. Il mania très bien le sabre.
Il a fait plusieurs batailles.
Ses victoires, il a fait Austerlitz le 2 décembre 1805. Iéna le 14 octobre 1806, Hello le 8 février 1807 et Wagram les 5 et 6 janvier 1809. Dans ces défaites, il y a la prise de Moscou, Bérézina, après il a été exilé à l'île d'Elbe, il y a eu Waterloo et puis après il a été exilé par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène où il est mort dans une petite maison bleue.
Napoléon eut deux épouses, Joséphine et Marie-Louise. Il épouse Joséphine en 1796. Et Marie-Louise en 1810. Napoléon a eu un fils en 1811 qui est nommé roi de Rome.
Il était très nul en orthographe et très bon en maths.
Il a mis en place le code civil. Voilà, c'était une petite présentation de Napoléon Ier. J'espère que vous avez appris des choses.
Depuis sortent un cinéma, l'une dit à l'autre. On rentre à pied ou on prend un chien?
En musique, les élèves de la classe ont inventé des raps. Nous allons vous en faire écouter un maintenant.
Notre chanson est des planètes, elle part des planètes, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle est pas nette. J'ai la tête qui se retourne.
Ça m'embête quand il y a trop de planètes.
Elle n'est pas nette.
J'ai la tête qui se retourne.
Ça m'embête quand il y a trop de planètes qui se la pètent.
Ça m'embête pas.
Elle est pas nette.
J'ai la tête qui se retourne.
Il y a la tête qui me tourne, mon esprit qui se retourne, ça déboule sans cesse et j'en perds la boule.
J'ai la tête qui se retourne.
Qu'est-ce qui sent la carotte et qui est invisible?
Un pied de lapin!
Le 31 janvier, nous avons reçu dans notre classe un gendarme de la BPDJ de Pithiviers. La BPDJ est la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions.
Interview.
Combien d'étapes faut-il pour devenir gendarme?
Avoir 18 ans, pas de casier judiciaire, être de nationalité française et enfin réussir le concours. Bon, 18 ans, bah, c'est l'âge légal, hein, être majeur. Être de nationalité française, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas rentrer, parce que nous aussi, on fait partie de l'armée, dans l'armée française ou voire dans l'administration française, si vous n'êtes pas nationalité française. Ne pas avoir de casier, c'est normal, on ne va pas laisser n'importe qui rentrer en gendarmerie. Et enfin, réussir le concours, parce que le concours est très difficile, hein. On a quand même plus de 15 000 candidats. Pour 1500 places. Vous voyez, ça fait pas beaucoup.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Parce que c'est un beau métier. C'est le plus beau métier du monde et je l'ai choisi parce que je voulais le faire, aider les autres, participer à la sécurité du pays et surtout voyager parce qu'on voyage beaucoup en gendarmerie.
Quelle est la différence entre la police et la gendarmerie?
Donc la police s'occupe des villes et la gendarmerie s'occupe des campagnes.
Utilisez-vous votre arme souvent?
J'ai utilisé 3 fois. Alors moi, je ne veux pas avoir à l'utiliser souvent parce que l'arme sert à nous protéger et à protéger les autres. Mais on n'est pas là pour l'utiliser. Maintenant, nous avons aussi d'autres armes à côté. On a les tasers, on a les bâtons télescopiques, on a un certain nombre d'armes.
À partir de quel âge pouvez-vous monter devant?
À partir de l'âge de 10 ans. Mais alors, l'âge de 10 ans n'est pas obligatoire. Si vous avez la taille nécessaire et vous voyez la plaque d'immatriculation qu'il y a devant vous, vous pouvez monter devant. D'accord? Il y a des gens qui ont 9 ans, qui sont très grands. Mais normalement, l'âge légal, c'est 10 ans.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Au revoir.
Au revoir. Merci à vous.
Bienvenue Quentin, Anaé, Maïssan et Gaël. Ce gendarme nous a appris des choses. D'abord, qu'est-ce que l'incivilité?
L'incivilité se définit par l'impolitesse et le non-respect des règles. L'incivilité est l'irrespect des personnes, des biens et de l'environnement. Cela énerve, dérange et nuit au sentiment de sécurité.
D'accord, expliquez-nous ce qu'est la violence.
La violence est le fait de faire mal volontairement avec des mots, des gestes ou des écrits.
Par exemple, des moqueries, des coups, des bousculades, des insultes et des croche-pieds.
Il existe 4 types de violences. Les violences physiques, les violences verbales, les violences morales, les violences sexuelles.
Si je suis témoin ou victime de violence,
je ne reste pas indifférent.
J'en parle à des amis.
Je me confie à des adultes.
Je ne laisse pas la situation s'installer.
J'ose dire non.
Je peux l'écrire.
Merci à vous 4 pour vos interventions. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, notre 2e émission est terminée.
Nous espérons que ça vous a plu.
À bientôt. Au revoir.